Salut à tous, la barre est haute cette semaine. On est un peu en dehors de nos repères. On enregistre cet épisode un peu plus tard. Il y a aussi quelque chose dans l'air. Ça doit être ce parfum de fin du monde, je ne sais pas trop. Il y a aussi la présence de Jean-Philippe Descaries-Mathieu parmi nous. Salut.
Salut.
JPDM pour les intimes.
Absolument.
Qu'on a déjà reçu par le passé. Les habitués du balado le reconnaîtront, n'est-ce pas? Jean-Philippe, pour ceux qui te connaissent un peu moins.
Je suis spécialiste en cybersécurité et en gestion de risques technologiques.
Et éléments perturbateurs du balado des décrypteurs.
Le plus possible, oui.
Et chroniqueur au 15-18. Figure reconnue dans les médias.
Ben, en tout cas, longtemps. Oui. Ben, quand même, pas pire, ouais.
Et grand champion de Muay Thai aussi.
Ben là, non, voyons! Je fais du Muay Thai, la boxe thaïlandaise, oui, mais je suis pas champion. J'ai 45 ans. C'est un peu tard pour moi de devenir champion en arts martiaux.
Mais c'est toujours un plaisir de te recevoir.
C'est très apprécié.
Tu peux parler de cybersécurité, mais tu peux parler d'un paquet de choses aussi qui sont en lien avec ce qui nous intéresse également aux décrypteurs. Nicolas, t'es de retour?
Temporairement.
Comment ça, temporairement?
Je serai absent la semaine prochaine encore.
À qui t'as demandé?
Pour la dernière fois. Au patron, là, on dit que c'était correct. Mais
peux-tu nous dire où tu vas?
Je m'en vais aux États-Unis pour un tournage semblable au tien il y a quelques semaines. Écoute, et on n'en dira pas plus.
On n'en dira pas
un
plus.
Un épisode spécial des décrypteurs.
Bonne chance.
À venir.
Bonne chance au sud de la frontière.
Ouais, j'ai hâte de voir les fils à l'aéroport, si ça va être l'enfer ou pas. Apparemment, qu'il y a du monde devait arriver comme 5 heures d'avance pour avoir des vols. À cause du conflit de travail avec la TSA aux États-Unis.
Mais t'es un gars zen, t'es un gars patient.
Ah, c'est good, hein? Là.
Reconnu mondialement pour ça.
Tu penses?
on a beaucoup de messages, évidemment, suite à l'épisode de la semaine dernière. Merci à toute l'équipe. J'espère revoir souvent la super Fanita, nos décrypteurs, nous dit une personne. Eh bien, elle reviendra et à un moment donné, c'est sûr et certain. On l'aime beaucoup, ça tombe bien. Une autre personne qui nous écrit en nous disant « J'adore ça quand vous invitez Fanita et Jean-Philippe Descaries-Mathieu. » Ben le voici, ben, le voilà. On exauce des vœux, nous.
Il y a une chance que je m'absente encore.
Ouais,
le monde va aimer ça.
Puis une suggestion peut-être d'invité qui nous a été acheminée par le biais des messages encore une fois. Fanny Tan y faisait référence dans une de ses analyses la semaine dernière. Une personne qui nous écrit en nous disant « J'adore le crossover de Paris Marx et les décrypteurs. Il faut le faire. » Donc peut-être que cette personne pourrait être invitée éventuellement au balado. Jeff, tu m'apprenais que Paris...
En français en plus.
Ben ouais. Français, ben oui. Peut-être, on ne sait jamais. On parle de gastronomie un petit peu?
Oh non, encore.
Mais on n'a pas le choix, Jeff. Les gens commentent.
Okay.
C'est ta faute. Tu as parlé des pâtes d'ours 10 secondes au micro-ondes. Puis là, ça n'arrête plus depuis ce temps-là.
OK.
Comme étant la quintessence de tout. Là. Après avoir oublié les condiments en camping ou d'une personne, ce qui était supposé être juste pour rire est devenu une tradition familiale. Hot dog au beurre d'arachide.
Ouais.
Pas sûr?
Prochain sujet.
Je sais pas. J'ai déjà fait un food challenge.
Je savais qu'il y avait quelque chose.
J'ai déjà fait un food challenge. C'était un immense burger, puis il y avait une Kit Kat trempée dans frites avec un coulis de beurre de peanut dedans.
Le Kit Kat est trempé dans une frite?
Non, il est frit. La Kit Kat est frite.
Okay,
puis en plus, il y avait un coulis dans un burger, puis un coulis de beurre de peanut. J'ai pas réussi le challenge. J'avais légèrement mal au cœur.
Légèrement.
Je peux imaginer.
Mais j'ai déjà réussi. C'est une affaire que je fais. C'est une fois de temps en temps, c'est des food challenges.
T'as-tu fait le Cinnamon Challenge 2005?
Je mange les affaires, les challenges.
Manges, okay.
Je fais pas juste m'humilier. Je fais pas juste m'humilier devant les caméras.
Quel est le liquide jaune devant toi, Jean-Philippe?
C'est l'inusitol.
L'inusitol.
C'est un energy drink d'une marque qu'on nommera pas vu qu'il n'est pas sponsorisé par Radio-Canada. Mais c'est pas mon
c'est
urine.
Ton secret. C'est
pas...
ton secret.
Exactement. Je suis le high sur l'inusitol présentement.
OK. Pendant que tu bois une gorgée, un dernier commentaire. Pendant que tu bois une gorgée, au sujet de l'IA, on a parlé encore une fois de musique IA la semaine dernière. En ce qui a trait à la musique IA, nous écrit une personne, je trouve toujours fou de payer pour les services de streaming. Mais maintenant, payer pour la musique IA, c'est encore pire. Aux yeux de cette personne-là, ça n'a aucun sens. Quand un artiste est sur Bandcamp, je le paye, ou encore mieux, paiement direct via MP3 ou un CD. Brown House et Velvet Funk sont deux IA qui sortent plus d'albums par année que Taylor Swift. Voilà pour ce commentaire sur la musique IA dont on parle souvent. Il ne sera pas question de musique IA cette semaine. Allons-y avec le menu. On va vous parler de l'incroyable histoire d'une cyberattaque massive qui a été évitée juste de justesse, là. Une affaire qui braque les projecteurs sur l'importance de Linux, mine de rien, de ce système d'exploitation pour le web mondial. C'est un rouage important. On va faire un petit suivi à la demande de Jean-Philippe Descaries-Mathieu sur Salt Typhoon. Il y a des choses à dire. Usurpation d'identité en ligne. Enfin, Québec sévit. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? la question se pose, comme dirait un vieux sage oriental. Oups, en pleine course à l'armement de l'IA, le code source de Claude Code a fuité. A priori, c'est pas une bonne nouvelle, ça, pour Anthropic.
C'est pas la pire des nouvelles, mais c'est pas une bonne nouvelle.
C'est si bien dit. Et on va parler de baseball et de robots. Et j'en dis pas plus. Et c'est parti, on y va. On aime tous les histoires où une catastrophe est évitée de justesse. On en a toute une à vous raconter cette semaine. Imaginez un scénario où une bonne partie de l'Internet mondial est paralysée par une cyberattaque ultra sophistiquée contre le système d'exploitation en source ouverte appelé Linux, qui gagne à être connu, puisque, mine de rien, une grosse partie du web repose là-dessus. C'est ce qui s'est produit en 2024. Oui, ça fait 2 ans, mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'il y a eu très peu d'attention médiatique sur cette cyberattaque avortée. La faille a été détectée in extremis, par hasard, grâce à la vigilance d'un seul individu.
Oui, ben c'est mention spéciale à la chaîne YouTube Veritasium qui a fait une vidéo là-dessus il y a quelques semaines. J'avais vu ça, puis dans la vidéo, il parlait du fait qu'il n'y avait pas eu beaucoup de couverture médiatique là-dessus. Pourtant, c'est une histoire qui est super importante. Puis quand on regarde là, la couverture médiatique qu'il y a eu, il y a à peu près juste Wired qui a écrit un article là-dessus à l'époque. Il y a eu des médias spécialisés dans la cybersécurité, puis des discussions sur des forums de cybersécurité. Mais pour le grand public, je pense que c'est important de parler de cette histoire-là parce que c'est absolument hallucinant. Mais je pense qu'on devrait peut-être passer la parole à Jean-Philippe quelques secondes. Là. T'sais, Linux, qu'est-ce que ça représente? T'sais, on dit souvent qu'il y a plein de choses qui reposent là-dessus, des systèmes vraiment sensibles. Explique-nous donc ça.
Fait que Linux, c'est un système d'exploitation comme Windows, comme macOS, etc. C'est principalement utilisé plus au niveau des serveurs puis des embedded objects, les objets embarqués, l'Internet des objets, genre de trucs-là, un contrôleur de porte intelligent, un thermostat intelligent, ça roule sous Linux généralement. Linux, c'est un vieux système d'exploitation qui existe depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, qui est un favori personnellement. Là, j'ai plusieurs serveurs, ça roule tout sur Linux ou presque. Là. C'est stable, ça a fait ses preuves, c'est malléable, etc. etc. La majorité d'Internet roule sous Linux. On le voit pas nécessairement, c'est pas dans les ordinateurs de bureau, c'est moins connu, mais comme je disais, à peu près n'importe quoi qui est serveur ou Internet des objets ou objets embarqués ou autres, roule sur Linux. Donc, c'est un nœud absolument essentiel d'Internet.
Et c'est un choix évident pour des cyberpirates si on veut déstabiliser une grande partie du web.
Oui, un petit peu plus que d'autres systèmes d'exploitation moins connus de par sa popularité, forcément. De par le fait que, justement, ça roule sur des nœuds ou des serveurs ou autres importants, c'est sûr que ça attire l'attention, mais n'importe quel système d'exploitation d'envergure va attirer son lot d'attention d'une manière ou d'une autre.
Puis, aussi, d'après ce que je comprends, c'est que des organismes comme des armées ou des banques vont utiliser Linux pour faire des... vont utiliser ça dans leur système parce qu'ils ne bâtissent pas nécessairement leur infrastructure sur Windows ou des systèmes d'exploitation plus...
Non, exactement. En 2026, je connais plus grand monde qui roule à Windows Server. Là. Ça existe encore, là, mais c'est juste. C'est pas le réflexe par défaut, si on veut, parce que Linux est plus malléable. Il y a plein de distributions de Linux. Tu en choisis une qui fait exactement ce que tu veux qu'il fasse avec. Il y a une immense armée de développeurs qui existe sous Linux, c'est ça. Puis du monde qui a de l'expérience, qui utilise ça depuis des années. Fait que c'est sûr que c'est un réflexe de construire une infrastructure. C'est un incontournable. Si tu ne construis pas, pas des serveurs sur macOS ou sur Windows 11 ou quoi que ce soit, plus en 2026.
Là. C'est ça.
Fait qu'il y a du monde, mettons, si tu l'as sur ton ordinateur, il y a comme, mettons, Linux Mint, que ça ressemble à Windows notamment, mais mettons, ceux dont tu parles, c'est pas ça. Là.
C'est version serveur, c'est vraiment en ligne de commande, là, si on veut. Là,
mais là, j'ai vendu le fait qu'on allait vous raconter une histoire incroyable. Il va falloir qu'on la raconte.
Oui, c'est juste qu'il faut placer le contexte aussi, ce qu'il faut comprendre avec Linux, c'est que c'est entretenu par une communauté. Tu sais, c'est open source, c'est en libre accès. Puis ce sont des volontaires en grande
beaucoup
partie qui entretiennent ça. Là. C'est pas une compagnie qui détient Linux parce que ça joue dans, dans l'histoire.
Il y en a comme des plus grosses compagnies comme Red Hat qui vont faire, mettons, que oui, le système d'exploitation il est gratuit, il est open source, il est en source ouverte. Tu vas payer pour, admettons, avoir du support. On va dire ça. Mais oui, c'est pertinent dans le sens où c'est important de comprendre que la communauté de Linux et des outils qu'il y a sous Linux, c'est principalement tenu par, à bout de bras par des bénévoles qui ne sont pas nécessairement payés pour faire ça.
Non, c'est ça.
C'est souvent un projet personnel ou autre. Puis se retrouve, puis des fois, ils se retrouvent, ces personnes-là vont se retrouver à porter le projet d'un développement d'une application, d'une librairie de développement qui est absolument critique pour 80% de l'Internet, puis on l'a vu à plusieurs reprises, puis ça touche un peu ce que
ouais, c'est ça. C'est ça, c'est important de placer ça parce que ça joue beaucoup dans cette histoire-là. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a deux ans, là, en février 2024, il y a une des personnes qui fait partie de la communauté Linux, Andreas Freund. C'est un employé de Microsoft, mais là, il faisait ça sur son temps libre. Il se met à regarder une nouvelle proposition de mise à jour de Linux. Puis là, il se rend compte qu'il y a un outil de la boîte à outils Linux qui ne fonctionne pas correctement.
Plus lentement.
C'est plus ça. Lentement.
Mais un petit peu.
C'est ça. On parle là, des fractions de secondes, dans le fond. Là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Il se met à regarder ça. Puis là, il se rend compte qu'il y a une fonction là-dedans qui fait quelque chose qu'il n'est pas supposé faire. Puis là, il alerte la communauté. Là, il y a comme un signal d'alarme. Il y a quelque chose avec cette mise à jour-là qui a été proposée dans cet outil-là qui ne fonctionne pas comme il est supposé. On se rend compte qu'il y a du code malveillant là-dedans qui permettrait à quelqu'un qui a justement une clé d'accès de pouvoir accéder à tout ordinateur qui fonctionnerait sur cette version de Linux-là si la mise à jour avait été acceptée. Puis là, on se rend compte un peu que cette mise à jour-là avait été proposée par une personne qui... Ça faisait deux ans qu'elle gravitait dans la communauté Linux. Une personne qui avait le nom d'utilisateur Jiatan. On ne sait pas son vrai nom. Elle s'est infiltrée dans la communauté Linux, en gros, pendant deux ans pour pouvoir installer cette porte dérobée-là dans une mise à jour de Linux. Puis non seulement que ça faisait deux ans, elle s'est infiltrée, gagnée lentement la confiance de la communauté, est devenue avoir de plus en plus de responsabilités au sein de cette communauté-là, puis elle faisait la pression pour faire cette mise à jour-là, mais... C'était un travail de longue haleine parce que même avant ça, elle avait participé à d'autres projets open source à l'extérieur de l'environnement de Linux pour gagner justement la confiance.
Mais là, ce que tu décris, c'est de l'ingénierie sociale.
Exact. C'est un cas classique de ça. Mais aussi un travail de super longue haleine
qui laisse présupposer qu'une personne, en tout cas, le monde en général n'a peut-être pas deux ans consacré à ce genre de tâches-là. Est-ce que cette personne agit seule? Est-ce qu'il y a une entité derrière? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
Un travail de longue haleine, ça habituellement, c'est assez typique des masses persistantes avancées, là, des groupes de hackers ou des unités de hacking au sein d'une armée ou d'un gouvernement ou autre sont protégées, payées par un État pour compromettre des systèmes d'information de pays hostiles au pays en question. En effet, il n'y a personne qui a deux ans à passer juste pour triper, dire « j'ai plus le contrôle de ce repo-là » ou quoi que ce soit. C'est pas comme ça. Juste une correction, Jeff, par contre, c'est une librairie de développement qui a été compromise, mais qui est utilisée partout. ExadUtils, dans le fond, quand tu veux compresser des données, quand tu développes un logiciel ou autre, forcément, tu veux faire de la compression de données. Puis c'est le défaut librairie que tu utilises, c'est celle-là. C'est celle-là qui a été compromise. Mm-hmm. Fait que tu sais... Ce travail de longue haleine-là est basé sur le fait que la communauté de développement est basée beaucoup sur une méritocratie. Genre, plus tu t'impliques, plus tu montes, plus tu fais tu commits du stock sur GitHub ou peu importe, là aussi que tu mets en ligne ton code, ben plus forcément tu deviens, ah ben ça c'est un gars dans qui on peut dépendre, tu sais. Puis là, quand ça fait deux ans, ben là, forcément, si tu dis, ben là, moi je suis prêt à prendre le projet sous mon égide, tu sais, je vais le porter à bout de bras, là. C'est bien rare que le monde va s'ostiner quand quelqu'un a fait ses preuves, entre guillemets, puis dire, ah oui, enlève-moi sur des épaules le plus rapidement possible, s'il te plaît, je suis déjà ingénieur chez XYZ, là, tu sais. Ça met en lumière une faille, des failles, en fait, au niveau de la confiance, à quel point la méritocratie a ses limites dans le mouvement open source, et ça met en lumière aussi les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement logiciel. C'est que pourquoi compromettre une entreprise X c'est le principe du château avec un pont-levis, une douve, avec des alligators, puis des meurtrières, puis tout le kit.
je vais pas charger le château directement. Je vais m'en prendre à la porte dérobée qui est sur le côté, qui est la sortie des égouts de Two Tower style, là, tu sais, genre la Seigneur des Anneaux. Mais c'est ça un peu qui est arrivé dans le fond. C'est que non seulement tu peux permettre de. Ça va te permettre, en compromettant une librairie de développement qui est utilisée partout, si tu la compromets, tu vas non seulement compromettre ta cible principale, mais tout potentiellement les autres entités qui utilisent cette librairie de développement-là.
Une réaction en chaîne.
Ben oui, ça ouvre les portes vraiment à plusieurs compromissions. Puis ça, c'est typique, tu sais, je parlais de la menace persistante avancée. C'est un peu le modus operandi de la Corée du Nord, ça.
Oh.
Eux autres sont connus dans les dernières années. Eux autres, ils envoient des personnes passer des entrevues d'emploi en TI, différents postes en TI. Ils se font passer pour souvent des Sud-Coréens à cause de leur nom ou leur apparence ou quoi que ce soit. Puis là, ils se font embaucher des entreprises, puis ils se font de l'information, puis ils le renvoient à Pyongyang. C'est le modus operandi de la Corée du Nord. Je ne sais pas si c'est eux qui sont derrière ça.
Il y a des indices, dans le fond. Puis ça, ça reste de la spéculation. Ouais. Là, mais l'heure et la date là, sur l'ordinateur de la personne j'y attends, ça correspond à l'Europe de l'Est et Israël. Le fuseau horaire. Il y a des gens qui ont remarqué que Jiatan travaillait pendant des fêtes nationales en Asie, mais pas pendant Noël, jour de l'an, donc des fêtes plus en Occident. Je pense que beaucoup d'observateurs qui ont regardé ça, des experts, là, disaient que c'est pas une personne seule qui a fait ça, de travailler pendant 3 ans là-dessus. En tout cas, y a cette personne-là ou ce groupe de personnes-là avait beaucoup de ressources. Aussi, il y a eu d'autres comptes qui ont été créés dans la communauté Linux pour demander « Hey, mettez cette mise à jour-là, on la veut. » Puis ces comptes-là ont arrêté de publier après que l'affaire Jiatan a explosé. Donc peut-être qu'il y avait d'autres faux comptes qui ont été déployés là, pour dans cette opération-là. Donc c'est quand même sophistiqué comme attaque. Là, sur.
Ça prend une préparation. Une planification puis une patience, mais tu sais, quand t'es payé pour faire ça par un État étranger, qu'il soit la Corée du Nord ou que ça soit un autre, là, je veux dire.
Mais là-dessus, le mystère demeure entier. On ne sait pas plus qui est Jiatan ni les entités qu'il y a derrière lui. Mais si jamais cette personne ou ce groupe, cette entité était parvenue à leur fin, si cet homme-là n'avait pas, ce développeur-là n'avait pas trouvé la faille, qu'est-ce qui aurait pu se produire?
Bien, c'est que toutes les applications qui utilisent cette librairie compromise-là auraient pu potentiellement être compromises à leur tour.
Oui, mais concrètement, quand tu dis qu'une grande partie du web repose sur Linux, on peut imaginer quand même l'étendue des dommages.
C'est une librairie de développement qui est extrêmement populaire, qui est un peu par défaut quand on veut faire de la compression de données. Donc, si on la compromet, celle-là, puis qui est utilisée par, je dis n'importe quoi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 100 000 organisations, entreprises et entités autres dans le monde, bien, potentiellement, tu ouvres la porte à 100 000 compromissions parce que tu utilises un nœud dans ta pile de développement qui est compromis, mais qui est à l'intérieur de ta pile de développement. Donc, tu sais, les barbares sont déjà passés au-delà de la porte, là. C'est ça le danger avec les compromissions de chaîne d'approvisionnement logiciel, c'est que tout le monde, essentiellement, les développeurs veulent aller vite, là. C'est en train de changer à cause de cloud puis de l'IA générative et autres, ils veulent aller encore plus vite, là. Mais historiquement, si on regarde, j'ai déjà été développeur moi-même, là, j'en suis coupable de ça. Quand tu as des deadlines, tout ça, tu veux, OK, je ne vais pas réinventer la roue, j'ai besoin de faire la compression, il y a déjà une librairie qui existe, elle a fait ses preuves, est utilisée par 100 000 personnes ou whatever plus, je vais utiliser celle-là, je ne me pose pas la question. Puis je suis un développeur, je ne suis pas un spécialiste en cybersécurité, fait que je ne vais pas nécessairement aller checker dans le code open source, la librairie de développement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de backdoor, de porte dérobée dedans. C'est pas toutes les entités qui peuvent se permettre de faire les audits de code en tant que tel. Puis je connais pas la structure de ExecUtils, il y a combien de développeurs ou autre, ou si c'est adossé par une compagnie, j'en doute. Là. Ça se peut, c'est pas impossible. Mais est-ce qu'ils ont fait des audits de code récents? Peut-être pas.
Probablement beaucoup de gens se seraient mis en confiance que ben, ça a été approuvé comme mise à jour, puis tu sais, que les gens qui sont supposés de faire les vérifications l'ont fait.
La sécurité, c'est basé sur la confiance, beaucoup.
Ouais.
Ben justement, poursuivons un peu sur un thème lié à la cybersécurité. Salt Typhoon, le 1er février 2025, tu étais venu nous en parler ici au balado des décrypteurs, Jean-Philippe. Évidemment qu'on le disait à l'époque, là, cette histoire-là est loin d'être terminée. Il y a eu d'autres chapitres. On se rappellera que c'est un groupe qui est soupçonné d'être géré par le régime chinois.
Ministère de la Sécurité d'État, spécifiquement.
Pour être plus précis, c'est ça, qui aurait donc mené des campagnes de cyberespionnage d'envergure. Puis dans Samir, il y a des entreprises de télécom, des entreprises web un peu partout dans le monde, des hauts responsables gouvernementaux. Mmh. Ça, on le savait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Quand on parle d'avance, menace persistante avancée, c'est un bel exemple, ça, Salt Typhoon. Premièrement, le nom, venez rapidement sur le nom, là, c'est une nomenclature de Microsoft. Il donne quelque chose, Typhoon, au groupe qui considère chinois. Donc, l'attribution est donnée à la Chine. Tu sais, mettons, les groupes de hackers au Canada, c'est quelque chose freeze.
Ah oui?
C'est quelque chose...
J'avais pas ça.
C'est un gros dans l'histoire, là, dans le milieu, là, la nomenclature. Là, chaque groupe a 25 noms, là, en tout cas, bref. Ça pour dire que... Ben, parce qu'il fait froid.
Ben oui.
Typhon en Asie. Il y a toujours un lien quelconque, aussi tenu soit-il. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que Salt Typhoon, essentiellement, c'est un groupe de hackers étatiques chinois. Il aurait compromis 200 organisations américaines, des organisations dans 80 autres pays. Le mois dernier, la Norvège révélait qu'il était compromis par Salt Typhoon. Ils s'en sont pris spécifiquement, c'est un groupe de cyberespionnage, donc ils font de l'exfiltration de données puis de l'espionnage sur des compagnies de télécommunications américaines. Des très grosses, Verizon, AT&T, Lumens et autres.
Les plus grosses.
Ben, pas mal les plus grosses, oui.
De quel genre de données est-ce qu'on parle, mettons, si on veut illustrer ça?
C'est dur à dire, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations en tant que telle de ce qui a été exfiltré. Il y a une sénatrice américaine, Mariah Cantwell, qui travaille très, très fort depuis des mois pour obtenir de l'information à ce sujet-là. C'est une des rares dans le Congrès américain qui se bat pour mettre la lumière là-dessus. C'est une histoire, on fait une parenthèse rapide, là, c'est une histoire qui a été sous-rapportée dans les médias canadiens, je trouve, en général. Je pense que je suis le premier à en parler dans les médias, quasiment. Là. Flabbergast, là, mais Mariah Cantwell, elle, ce qu'elle fait, c'est que il y a une firme de cybersécurité qui s'appelle Mandiant qui a été sollicitée par Verizon et AT&T pour enquêter sur cet incident-là. Les autres, ils ont produit un rapport d'incident. Mariah Cantwell veut obtenir ce rapport-là parce que ben, c'est pertinent pour les clients de Verizon et AT&T qu'on ne sait pas quelle information a été exfiltrée. Ouais. Le Verizon et AT&T bloquent la publication de ce rapport-là. Là, je ne connais pas les pouvoirs des sénatoriaux américains. Je ne sais pas à quel point ils peuvent forcer la compagnie Mandiant à publier le rapport, mais elle se bat vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Elle essaie vraiment le plus possible de mettre ça au jour, cette histoire-là, parce que c'est... Je mentionnais la Norvège tantôt. Oui. La Norvège a dit que c'est son plus gros enjeu de sécurité depuis la Deuxième Guerre mondiale. La compromission de Salt Typhoon. C'est pas rien en venant de la Norvège. Là.
Oui.
J'avais dit à l'émission en février 2025, pour moi, c'était la nouvelle de 2024. Mm-hmm. Quand un groupe étatique payé par un État qui est hostile aux intérêts du Canada et autres, et des États-Unis, compromet en série les plus grosses compagnies de télécommunications américaines qui ont supposément un budget illimité pour protéger leurs données, et le fait sur une très longue période. On parle des fois... pour certaines compagnies de télécommunications qui ont été compromises aux États-Unis, on parle de plusieurs années de compromission.
Wow.
Puis ça n'a pas été détecté avant des années ou des mois, dans certains cas. C'est quand même pas rien là, qu'un acteur hostile adossé à un État qui est ouvertement hostile compromet en série les plus grosses compagnies de télécommunications américaines, puis qu'on en entend à peine parler, c'est moi ça me flabbergue. Je sais pas pourquoi, là, c'est une incompréhension généralisée chez les journalistes de tout ce qui est technologique ou autre. Vous pourrez me le dire plus que moi. Là. Ben, j'ai ma petite idée aussi là-dessus, là, mais
C'est-à-dire?
Là, vous êtes poche côté technologique. Pas vous, là, mais...
Mais là,
Non, mais attends, la question est légitime. Je pense qu'il y a puis j'en ai déjà parlé souvent à Jeff là, de ça. Là, mais Jeff m'a déjà dit, vous avez un beat, vous avez une spécialisation, ce qui n'est pas le cas de la majorité des journalistes. Fait que quand on demande à un journaliste qui fait de l'écrapou, du trafic ou whatever, de commenter sur le Typhoon, ça se peut qu'il fasse next. Je vais parler plutôt de... Whatever, là, c'est quoi le...
Mais il y a un manque de transparence aussi, par contre, là, aux États-Unis, tu sais.
Mais tu comprends que les médias travaillent avec une... déontologie journalistique, c'est
juste que on utilise beaucoup, les fournisseurs d'accès à Internet au Canada vont utiliser beaucoup l'infrastructure de compagnies de télécommunications américaines pour desservir les services à leurs clients. Ça nous implique indirectement, en fait. C'est Mariah Cantwell est là-dessus, c'est une des seules au Congrès américain qui est là-dessus. Mandiant refuse de publier le rapport, Verizon et AT&T, pour une raison X, veulent pas que le rapport soit publié. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la pression politique? Est-ce parce que ça révélerait des failles aberrantes de leur côté qui auraient dû être colmatées? Puis on est pas mal sûr que c'est le cas, là. Salt Typhoon, de la manière qu'il a exploité beaucoup de systèmes pour compromettre ces systèmes-là, c'est beaucoup par des failles des vulnérabilités qui étaient déjà patchées dans certains cas depuis genre un an et demi, je pense. Puis c'est juste les compagnies qui n'ont pas fait leur job de colmatage de failles, ce qui est très, très commun. Là. Ça, j'en vois toutes les semaines dans ma job. Là. Mais tu as moins d'excuses quand tu t'appelles AT&T puis Verizon, puis tu as des poches très, très profondes. Puis c'est quand même les États-Unis. Puis à l'époque, je disais d'ailleurs que les États-Unis étaient doublement compromis parce qu'il y avait Doge qui était très actif à l'interne aux États-Unis. Il était compromis de l'interne par Doge, compromis de l'externe par son Typhoon. Mais ça va beaucoup mieux aux États-Unis depuis ce temps-là.
Non, exactement. Puis, tu sais, moi, je regarde le panorama un peu plus large. On est en pleine époque là, de flotte de zones. Notre attention, elle est partout. L'attention des gouvernements et des autorités, elle est partout en même temps. On dirait qu'on en échappe de plus en plus.
Ben ouais, d'ailleurs, le compte courriel personnel du directeur du FBI, Cash Patel, aurait été compromis par l'Iran cette semaine. Ils ont publié ses photos personnelles de voyage à Cuba.
Cigares, danse.
C'est le directeur du FBI. Là. C'est son adresse personnelle, à ce que je comprends. C'est pas son adresse FBI.gov, mais quand même sérieux.
C'est symptomatique de ce qu'on voit du hack and leak, en fait, de plus en plus. C'est que tu as des... C'est Handala qui est derrière ça, comme tu disais, le groupe associé au ministère du renseignement iranien. Là. C'est quand tu as des capacités limitées, comme eux autres. Tu peux quand même faire des dégâts en embarrassant quelqu'un qui est déjà... triplement embarrassé, mais bref, on va mettre sa pile de choses embarrassantes sur Cash Patel. D'ailleurs, parenthèse là-dessus, à l'intérieur des emails, on sait qu'il y avait une autre adresse courriel qui s'appelle spidercash@yahoo.com qui était utilisée sur xvideos.com pour son profil personnel de truc de porno. Genre. Fait que, avis aux intéressés, si vous voulez voir la liste de ce que Cash Patel a fait. Là, je me suis pas rendu jusque-là, mais... des limites à tout savoir, là. Mais oui, c'est court. Ça.
Le but, c'est de la mettre dans l'embarras, pas nécessairement de dévoiler des informations.
Il n'y a pas d'informations vraiment intéressantes dans cette fuite-là. Là. Il a l'air d'un gros douchebag qui fume des cigares à Cuba. Là. On va le mettre sa pile de gros douchebag qui fume des cigares à Cuba. Tu sais, je veux dire, c'est embarrassant parce que c'est le directeur du FBI, mais de tout ce qui est arrivé depuis un an et quelques, c'est pas la pire affaire que ce gars-là a fait. Mais c'est symptomatique de cette tactique-là de faire de hack and leak pour des groupes qui ont moins de moyens pour juste s'embarrasser. Puis ça rappelle... Ça, c'est principalement des courriels entre 2010 et 2019, je me souviens. Il y a d'autres courriels un petit peu plus tard, mais c'est principalement quelques centaines de courriels. J'ai tout le temps dit, c'est de retirer des données d'Internet, c'est comme retirer de l'urine d'une piscine. Là. C'est très difficile à faire.
Ouais.
Ça vit longtemps, ces informations-là.
C'est sur cette belle image que je vais prendre une gorgée de café pour poursuivre. Toujours très imagé quand Jean-Philippe vient nous voir.
Absolument. Il faut.
Toi, t'as plus de tatous qu'avant.
J'ai plus de tatous qu'avant.
De tatous?
Ben ouais, une fois de temps en temps, j'en rajoute, là. Ouais.
OK, c'est bon.
Ouais, à un moment donné, je vais manquer de place.
Il y a encore de la place pour aborder d'autres sujets. Allons-y avec le prochain. Nicolas, tu t'es particulièrement penché là-dessus cette semaine. Les usurpateurs d'identité en ligne, ça, c'est un problème auquel on a souvent fait référence aux décrypteurs. Bien avant Marie-Claude Barrette, on vous en parlait. Donc, les Normands Brathwaite, Guillaume Lepage, Marie-Pierre Morin et autres dont l'identité est usurpée, dis-je bien, dont les visages et les voix sont utilisés sans consentement pour la promotion de services frauduleux, la vente de produits bidons. Ça, c'est un problème.
Crypto-monnaie,
n'est-ce pas? Là, il y a de l'action. Le gouvernement provincial, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, qui a annoncé un projet de loi, 24, dont le libellé le suivant, puis ensuite je te passe la parole. La loi protégeant le consommateur contre l'utilisation trompeuse ou frauduleuse de l'identité ou de l'image d'une personne. En quoi ça consiste?
C'est intéressant parce que c'est un problème multifacette, cette affaire-là, dans le sens qu'on a ces services frauduleux-là. Il y a des annonces pour ces services-là sur les réseaux sociaux. On sert d'images de personnalités connues, on sert d'images de médias connus. Ça dirige les gens vers des sites web qui sont... frauduleux, effectivement. Puis, c'est des gens à l'étranger qui opèrent les sites. Donc, il y a plusieurs parties prenantes dans ces fraudes-là. Et le gouvernement décide de s'attaquer spécifiquement à la diffusion de publicité en accordant plus de pouvoir à l'Office de la protection du consommateur, donc l'OPC. Ce que ça permet aux gens de faire, c'est en fait ce que ça permet aux gens dont l'identité est usurpée de faire, c'est de loger une plainte auprès de l'OPC. Et on donne davantage de pouvoir à l'OPC pour qu'il exige aux personnes qui diffusent ces publicités-là ou bien les services qui les diffusent de les retirer sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 125 000 $ ou jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires mondial dans leur dernier exercice financier.
Quand même.
Donc, c'est un moyen parmi d'autres de s'attaquer à ça. Dans ce cas-ci, on s'attaque vraiment à la publicité. Mais la question, c'est est-ce que ça va marcher? Parce qu'on donne ce pouvoir-là à l'OPC. Il y a aussi l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui a des pouvoirs supplémentaires avec ça, parce que c'est eux qui gèrent tout ce qui est en lien aux crypto-monnaies, donc ils peuvent aller faire le lien avec l'OPC par la suite. La question, c'est comment est-ce que ces plaintes-là vont fonctionner? Parce que si l'OPC demande, par exemple, à Facebook de retirer ces publicités-là, est-ce que ce sera toutes les publicités, par exemple, qui utilisent l'image de Norman Brathwaite qui devront être retirées, ou est-ce que ce sera fait à la pièce? Parce qu'on sait, c'est plusieurs acteurs qui mettent ces publicités-là en ligne. Ça peut être plusieurs personnes différentes qui font ça. Puis il y a des dizaines, même centaines de pubs. Donc, si c'est à la pièce...
Il faudrait que ça soit beaucoup de plaintes qui se fassent.
Difficile de voir comment ce serait efficace, mais si les réseaux peuvent mettre en place un moyen de détecter le visage de ces gens-là, ces entreprises qui développent, dans mes cas, de l'intelligence artificielle...
Ils ont des moyens, là.
...pour le faire, là, ça pourrait peut-être être plus efficace, surtout quand on considère que les pénalités sont quand même grandes, là. Mais il manque de détails en ce moment, disons.
Oui, bien, on a posé la question, d'ailleurs, au ministère de la Justice, à savoir, là, si c'est à la pièce, si, comme quelqu'un se plaint pour une publicité, est-ce qu'on va forcer Meta, par exemple, à enlever cette publicité-là, en particulier, ou si on va demander à Meta qui bloque d'autres publicités utilisant l'identité usurpée de la même personne. On leur a demandé, donc si jamais j'ai reçu un retour là, avant qu'on mette en ligne le balado, on va mettre la réponse ici.
Salut, une petite parenthèse. À ce moment-ci, la discussion pour faire place à une précision qu'on juge quand même importante. C'est qu'on a parlé au cabinet du ministre Jolin Barrette. On voulait des précisions, on avait des questions à leur poser et il nous confirme que cette loi dont on parle s'appliquera au cas par cas. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, si Guy Lepage aperçoit une publicité qui usurpe son identité, les personnes ou les entités qui diffusent cette publicité, donc éventuellement Meta, devront cesser la publication de la pub en question. Meta ne sera pas obligé d'empêcher la diffusion d'autres publicités qui usurpent aussi l'identité de Guy Lepage. Dans ces cas-là, Guy Lepage devrait, par exemple, signaler chacune de ces publicités quand il les voit pour qu'il y ait des conséquences. Le cabinet du ministre Jolin Barrette nous a aussi confirmé par le fait même que l'amende de 5 % du chiffre d'affaires mondial pourrait techniquement, à tout le moins, s'appliquer à Meta. Mais on nous dit, par contre, qu'il est assez peu probable que ça se produise. Pourquoi? Parce que Meta, nous dit le gouvernement et le ministère de la Justice, coopère généralement très bien quand les autorités provinciales lui signalent du contenu illégal. Alors, vous nous connaissez, vous pouvez compter sur nous, on va suivre ça de très près. On retourne à la discussion.
Je lisais le compte-rendu de la conférence de presse qui annonçait ce projet de loi-là. Le ministre de la Justice, quand même, se dit confiant que les plateformes vont coopérer. Ils disent qu'ils ont une bonne coopération, par exemple, en ce qui a trait aux photos intimes non consensuelles, que quand il y a des communications chez TikTok, chez Meta, signalant du contenu qui est problématique, là, qu'on l'enlève assez rapidement. Puis on se dit confiant que les plateformes vont être tout aussi coopératives quand ça vient aux publicités frauduleuses avec l'identité qui est usurpée.
Est-ce que c'est naïf de le croire?
Comme disait Nicolas, c'est un problème qui est complexe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièces là-dedans. Tu sais, le site web qui vole l'argent de la personne qui a cliqué sur la publicité, c'est pas elle qui a mis la publicité. Souvent, ce site web frauduleux-là, ils sont même pas au courant de qu'est-ce qu'il y a dans la publicité. On incite juste la personne à cliquer. Les gens qui mettent les publicités peuvent être partout dans le monde. C'est souvent même pas des entreprises, c'est des dudes qui font ça à la pièce. Ils trouvent des offres dans des forums pour mettre des publicités, puis ils font ça à leur compte. On sait pas souvent c'est qui. C'est pas des entreprises souvent, là. Ça peut juste être des gens qui travaillent à la pige pour des entreprises de marketing d'affiliation.
Souvent, c'est bien payé aussi parce que quand on s'inscrit sur un de ces sites-là, ça coûte en général au minimum 250 $ comme premier dépôt. Ben si tu t'inscris, c'est là que les gens qui mettent les pubs en ligne sont rémunérés. Et souvent, c'est plusieurs milliers de dollars par inscription qui peuvent se faire. Ouais. Fait qu'on imagine, surtout dans d'autres pays où est-ce que justement le salaire moyen est plus bas, c'est vraiment de grandes sommes d'argent pour les gens qui font ça. Donc, il y a une grande motivation pour le faire aussi.
Puis ce qu'on sait aussi, c'est que souvent, les gens qui mettent les publicités frauduleuses vont aller acheter des comptes piratés sur Facebook associés à des cartes de crédit. Donc, ils achètent les publicités avec une carte de crédit qui est volée, un compte qui est volé. Eux autres, ils font leur argent si toi, tu cliques dessus et tu t'inscris. Mais là, quand la publicité est signalée à l'AMF, est-ce qu'ils vont avoir le pouvoir d'aller trouver le jeune gars en Albanie, dans son sous-sol, qui a volé le compte d'un commerce en Californie pour pouvoir acheter des publicités frauduleuses? Ça commence à être complexe. Puis, je veux dire, ils reconnaissent, j'ai bien apprécié dans la conférence de presse, il y a des journalistes qui ont posé ces questions-là. Puis on est conscient là, au ministère de c'est très complexe, puis c'est souvent à l'international, ces stratagèmes-là. Donc, on trouve ça quand même encourageant qu'on se penche à ce phénomène-là, que ça fait des années que ça roule.
Ouais.
Là, c'est vraiment comment ça va fonctionner dans le concret, puis à quel point les plateformes vont être forcées à agir. Ça va être vraiment intéressant à suivre.
Oui, des plateformes qui, on l'a vu par le passé, sont capables d'ignorer complètement les lois des souveraines de certains pays, certaines réglementations qui sont mises en place. Puis c'est donc nécessairement une loi qui est imparfaite que vous me décrivez là. Non?
Justement, genre cet après-midi, juste avant qu'on enregistre, j'ai vu une publicité frauduleuse qui surpelle l'identité de Kevin O'Leary sur X. Est-ce que X va collaborer avec l'AMF du Québec?
Est-ce que Kevin O'Leary va contacter l'OPC?
Non, c'est ça. Mais quelqu'un a demandé la question pendant la conférence de presse. Puis c'est pas seulement la personne dont l'identité est usurpée qui
on
va pouvoir
porter son nom.
Ouais. Ah, okay. Mais il y avait une question d'un journaliste de la presse intéressante. Il dit, est-ce que la presse pourrait déposer une plainte, parce que souvent l'identité d'un média est usurpée.
L'image de marque,
et non. C'est juste des personnes. Donc, okay. Radio-Canada ne pourrait pas porter plainte à des publicités qui disent « Hey, Radio-Canada annonce un nouveau système d'investissement. » Pour le moment, on n'est pas rendu là.
Le ministre, par contre, a dit qu'il était ouvert aux suggestions, à écouter ce que les gens avaient à dire. Donc, peut-être que ce sera mis à jour à ce niveau-là. Mais c'est vrai, c'est pas juste la personne qui peut porter plainte. Même quelqu'un qui se fait flouer peut porter plainte. Un autre aspect peut-être imparfait à cette loi-là, c'est que s'il y a des sommes qui sont demandées aux diffuseurs de publicité ou aux gens qui les mettent en ligne, l'argent ne reviendra pas aux victimes nécessairement, mais bien au fonds consolidé du gouvernement. Donc, c'est le gouvernement qui encaissera cet argent-là, finalement. Donc, il n'y a pas de recours pour les victimes en tant que telles. Pour l'instant, ça ne les aide pas, mais ça aide les prochaines personnes à ne pas tomber victimes de ces arnaques-là.
Jean-Philippe est perplexe, Nicolas.
C'est en train de me dire que c'est une forme de taxe sur les trucs illégaux, puis que les gouvernements vont s'en mettre ça dans les poches. C'est en train de me dire ça?
Écoute, c'est pour protéger les gens.
Je
suis pas le gouvernement.
Imagine le gouvernement du Québec qui réussit à mettre la main sur 5% du chiffre d'affaires mondial de Meta.
Ça peut financer
le troisième lien certains services demain.
Ouais.
On prolonge les lumières sur le pont Jean-Cartier pour un autre 20 ans.
Ça, là, c'est important ce qu'il vient de se dire, les amis, parce que ceux qui ne le savent pas là, vont le savoir. Nicolas, c'est un grand fan des lumières sur le pont Jean-Cartier.
Magnifique. C'est le plus grand leg de Denis Coderre, je pense.
C'est un moment tournant de l'histoire montréalaise, c'est ça?
Écoute, on est une vraie ville.
Enfin.
Une vraie ville internationale, donc on a des lumières sur notre pont. Okay? Puis moi, j'aime ça. C'est vraiment beau, honnêtement.
Voilà qui est dit. Puis, écoute, si jamais ils retirent les lumières, Nicolas...
Non, mais tu pourras... Quand tu vis dans une ville, c'est les petites choses.
Non, mais c'est correct. Je comprends tout à fait, Nicolas.
Tu veux-tu que la ville soit grise?
Non, mais je m'inquiète pour toi le jour où ils les enlèvent.
Je sais.
Tu nous en parleras.
L'hiver, là,
on va en parler en équipe. On va te soutenir. Donc, le projet de loi Nicolas Morel de l'Histoire, c'est à l'usure qu'on va voir sa portée réelle, son efficacité, puis...
On suivra ça.
On suivra ça, comme on dit.
Suivi le projet de loi?
Oui, mais c'est ça, parce qu'il y a eu un projet de loi dont on parlait, le C-22. Hein?
C-22.
Il y a quelques semaines. C'est éminemment complexe. J'ai vu à quel point tu as fouillé ça dans tous ces détails, ces recoins. On croit comprendre que le ministère de la Justice, fédéral de la Justice, écoute nos épisodes.
Oui, parce que je les avais contactés justement avant cet épisode-là, il y a 2 semaines. J'ai pas eu de retour de leur part à ce moment-là. Et aujourd'hui même... ils m'ont envoyé un courriel de rectificatif et je vais donc faire ce rectificatif à l'instant parce qu'on sait ce projet de loi C-22 sur l'accès légal aux données qui veut donc accorder davantage de pouvoir aux autorités pour accéder à certaines données de télécommunications notamment. Il y a un bout spécifique du balado où est-ce que je disais que la Cour suprême du Canada exigeait des motifs raisonnables de croire et non de soupçonner qu'un crime avait été commis pour obtenir des renseignements d'abonnés ou d'adresses IP selon 2 jugements de la Cour suprême, donc Spencer et Bikovitz. Le ministère de la Justice nous a précisé que la Cour exige une autorisation judiciaire pour accéder à ces données, mais qu'elle n'a pas explicitement statué sur le seuil de preuve requis. Donc, simplement ça. Donc, effectivement, avec le projet de loi, on demande une autorisation et le seuil, c'est de soupçonner qu'un crime aurait ou allait être commis. Est-ce que c'est clair?
C'est clair.
Je m'ajouterais un truc là-dessus. Ce que le projet de ma compréhension du projet de loi C-22, on parlait de Salt Typhoon tantôt.
Oui.
Salt Typhoon, ce que Salt Typhoon a compromis chez Verizon, AT&T et compagnie, c'est les systèmes d'écoute électronique utilisés par la police. Quand, mettons, ils ont un mandat de perquisition, on dit tel utilisateur de Verizon a commis tel crime, whatever. On veut,
on veut savoir son activité Internet. C'est des systèmes qui sont plug and play, là, si on veut faire une image mentale de tout ça, pour la police qui débarque, puis ils peuvent siphonner le trafic ou siphonner l'activité de l'utilisateur en question, que ce soit très clé en main. C'est ça qui a été compromis par Salt Typhoon.
Okay.
C'est exactement ce genre de système-là que le projet de l'OS C22, de ma compréhension, va mettre en place.
Ouais.
Puis en amont de Salt Typhoon, bien avant, il y a des années de tout ça, les systèmes de wiretapping, d'écoute électronique, là, aux États-Unis, il y avait eu des levées de boucliers, beaucoup, pour les partisans de la vie privée et autres, des trucs de surveillance, disant... Ces systèmes-là, c'est extrêmement dangereux si ça tombe entre les mauvaises mains.
Oui.
C'est exactement ce qui est arrivé via Salt Typhoon à AT&T, Verizon et compagnie.
Hmm.
Fait que là, avec ce qu'on sait sur potentiellement une des grosses compagnies de télécommunications canadiennes qui a été compromise ou pas, mais probablement, on voudrait mettre en place ces systèmes-là dans un contexte où il y en a une au moins des entreprises qui a été compromise ou qui l'est potentiellement encore.
Mm-hmm.
C'est ça ma compréhension de C22.
C'est ça. On parle tout de même de pas, je précise, d'intercepter le contenu des messages, par exemple. C'est ce qui est précisé. Mais oui, on veut donner une interface essentiellement aux forces de l'ordre pour qu'elles puissent intercepter ces données-là. Puis aussi, on veut conserver les métadonnées un an de tous les utilisateurs, mm-hmm. ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, c'est quand même une portée assez large. Donc voilà, peut-être une autre parenthèse du ministère de la Justice là, qui n'est pas un rectificatif, mais juste un ajout de leur part. Je mentionnais qu'il y avait des experts à qui j'ai parlé en vie privée qui craignaient que le projet de loi allait à l'encontre de la Charte des droits et libertés civiles qui garantit à toute personne la protection contre des perquisitions ou des saisies abusives.
Okay.
Le ministère qui dit que le projet de loi a été soigneusement conçu pour être conforme à la Charte. Donc, c'est pas vraiment un rectificatif. Eux, ils assurent là, que non, finalement.
On va les croire sur parole.
Ce sera à suivre.
Et les frais suivront ou pas, on verra bien.
Malgré le fait que ça peut être invoqué sous la possibilité qu'il y ait un crime. Il y a des raisons de s'inquiéter.
Donc, on ferme cette parenthèse. Nicolas, merci pour ces précisions.
Ça fait plaisir.
Et on salue le ministère fédéral de la Justice. Poursuivons maintenant dans le merveilleux monde de l'IA, où il ne manque pas de rebondissements. Quand même, comme je le disais, rappelons-le ce contexte de la course à l'armement en ce moment, une course féroce entre de gros joueurs qui brassent pas mal d'argent, d'investisseurs en promettant toutes sortes de choses. Mais ça, c'est une autre histoire. Le code source de Claude Code a fuité. Ouais. Et ça, j'ai pas eu le temps de lire là-dessus parce que c'est un sujet qui s'est rajouté à la toute dernière minute, Jeff.
On parle pas d'un piratage ici.
Non, mais c'est quoi l'histoire?
Ça serait une erreur humaine au sein de Anthropic. Ironique parce qu'on nous disait que désormais chez Anthropic, c'est juste des agents IA qui font tout le travail informatique. Mais c'est une erreur humaine selon Anthropic. Le code source de Claude Code a été malencontreusement diffusé en ligne.
Pour ceux qui connaissent moins ce jargon-là, c'est quoi un code source? Puis qu'est-ce que ça implique de l'avoir fuité comme ça?
Bien, dans ce cas-ci, c'est vraiment du code, des lignes de code qui montrent comment Claude Code fonctionne, donc le fonctionnement interne de Claude Code. Ça ne montre pas comment Claude lui-même fonctionne. Il n'y a pas de données d'utilisateurs qui sont compromis ou quoi que ce soit, mais ça permet d'en connaître plus sur le fonctionnement de cet agent de codage-là en tant que tel. Puis aussi, contenu dans ce fichier-là étaient certains des plans d'avenir de Claude Code. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qui allaient s'ajouter éventuellement. Okay. Il y avait aussi, notamment pour le poisson d'avril, il devait avoir une espèce de Tamagotchi dans Claude Code qui serait intégré. C'est pour ça que c'était une mise à jour qui a été poussée.
Ah, c'est ça.
Ils ont intégré ce fichier-là par erreur dans l'espèce de batch de fichiers qu'ils ont mis en ligne.
C'est pas un poisson d'avril, vous n'êtes pas fait avoir?
Non, c'est vraiment vrai. C'est sur un registre public. Là. Fait que c'est comme un site web parce que tu peux aller mettre un ensemble de fichiers à télécharger. C'est le registre public NPM qui est quand même assez connu, j'imagine. Que t'as,
un dépôt d'applications, tu peux aller chercher des applications.
Là. C'est ça. Donc bref, il n'y a pas de la sécurité de Claude en tant que tel n'a pas été compromise. C'est pas vraiment grave en tant que tel, autre que c'est des secrets quand même d'entreprise. Il y a des gens qui ont republié ça des milliers de fois sur GitHub, notamment, qui est un site où est-ce qu'on peut aller mettre justement du code en ligne. Anthropic a commencé à ordonner que ça soit retiré du site, notamment.
La propriété intellectuelle, c'est important dans ce cas-là.
Soudainement.
Voilà. Donc c'est moins... pas l'incident de sécurité le plus grave ou quoi que ce soit, mais c'est juste hautement ironique qu'une entreprise basée sur la sécurité fasse cette erreur-là. Puis, ça permet à leurs rivaux, dans quelque sorte, comprendre comment ça fonctionne.
Tout le monde a copié, tous leurs rivaux ont copié ce code pour aller voir. Puis, j'ai vu, il y a des gens qui essaient aussi de le convertir en d'autres langues pour outrepasser là, les demandes de copyright d'Anthropic. Donc, je suis sorti de sac.
C'est juste cocasse, là.
En parlant de choses cocasses, ironique, le sort de Sora aussi, il y a quelque chose de, ouais, de cocasse et ironique. On en parlait la semaine dernière. Sora, donc, OpenAI a dit c'est fini, merci, bonsoir. 6 mois après l'avoir lancé avec tambour et trompette, une révolution s'en vient, tout le monde s'amuse avec ça, c'est un gadget très drôle, tout ça. Mais là, dans la foulée de tout ça, on apprend un peu aussi le volet financier de Sora. On fait le point là-dessus.
Oui, c'est selon le Wall Street Journal là, qui ont des sources à l'interne chez OpenAI qui leur indiquent que Sora perdait $1 million par jour.
Wow.
Ce qui est quand même fou, là. C'est des montants d'argent assez colossaux. Puis aussi que le nombre d'utilisateurs là, de Sora avait baissé à 500 000 utilisateurs. Donc vraiment pas super populaire. Ça avait explosé en popularité quand il l'avait lancé. Puis ben, ça a baissé en popularité parce que les gens ont fait 3-4 vidéos drôles de Donald Trump qui danse ou je sais pas, des choses comme ça. Puis finalement, se sont tannés parce que c'était fondamentalement un jouet, Sora 2. Je trouve aussi intéressant qu'ils ont parlé à des sources chez OpenAI qui disaient que avant de le lancer publiquement, Sora 2, ils ont montré ça à des employés à l'interne et je cite là, it gathered mixed reviews, donc des critiques mitigées à l'interne même chez OpenAI, que les employés se disaient ben c'est quoi le rapport avec notre mission, puis est-ce que ça va nuire à notre image de marque de faire ça. Ils voyaient pas trop à quoi ça servait de lancer ça. Ben force est de constater qu'ils avaient raison. Je souligne là juste rapidement que OpenAI conclut une autre ronde de financement de 122 milliards de dollars américains, ce qui amène la valeur sur papier à OpenAI à 852 milliards de dollars américains. On se disait ça tantôt, il y a une époque où un unicorn dans le monde des startups, c'était quand tu avais une jeune pousse qui atteignait une valeur de 1 milliard de dollars avant d'être cotée en bourse. Puis là, ben, OpenAI qui veut être cotée en bourse vraisemblablement à l'automne, valent 852 milliards de dollars sur papier. Ils sont aussi allés chercher des prêts potentiels, des marges de crédit chez des banques, dont la Banque Royale du Canada, donc un paquet de banques. Beaucoup d'argent dans leur poche.
Tout va bien, les amis. Moi, je propose qu'on change les idées en parlant de baseball.
Oui.
Dernière fois que Jean-Philippe est venu nous voir, en février 2025, tu avais une casquette des Yankees rouges.
Oui.
Je décode que tu étais un fan des Yankees.
Oui, quand que les expos sont faites montrer la porte de manière très cavalière, il n'est peut-être pas question que je supporte les Blue Jays, parce que c'est Toronto. On salue les deux personnes à Toronto qui nous écoutent. Je me suis dit, j'aime beaucoup New York.
Des commentaires, c'est sûr et certain. Ben moi, ce que j'ai pas digéré, c'est la République dominicaine contre les États-Unis. En demi-finale de la série qui vient de se terminer.
Championnat mondial. Championnat mondial.
Clairement, c'était une balle. Et ça a été... Le receveur là, était abasourdi aussi. Là. C'était vu comme une prise. Puis tout ça nous amène à la révision ou à la robotisation de la révision des décisions au baseball, qui nous amène à, si on veut, le moment cocasse de la semaine.
Ben, c'est de l'IA, tu sais, fait que ça rentre dans nos sujets.
Ça rentre dans nos sujets? On a le droit?
Oui.
OK.
Non, ça a donné lieu, je pense, à un de mes clips préférés de l'année jusqu'à date. Mais c'est ça, les ligues majeures américaines ont un nouveau système, là, le Automated Ball Strike System, donc le système automatisé balle et prise. Dans le fond, les joueurs, s'ils pensent qu'il y a une mauvaise décision de l'arbitre, ils peuvent demander une révision qui est automatisée. Là. C'est un robot qui décide si oui, c'est une balle ou si oui, c'est une prise. Et il y a eu un match cette semaine où il y a un entraîneur qui s'est fait éjecter du match après avoir été vraiment pas content de la révision du robot ABS. Puis il y a eu cette clip-là des annonceurs du match qui est absolument hilarante.
And Derek Shelton's been thrown out. He's arguing with the robots. You can't defeat the robots.
Donc, il se chicane avec le robot. Tu ne peux pas te battre contre les robots.
Tu peux pas te battre avec un robot.
Écoute, c'est tellement représentant de... Ça représente notre époque à merveille, je trouve.
La clip est excellente, mais là, il y a des gens qui soulignaient qu'apparemment, qui se plaignaient parce que le joueur a pris trop de temps pour demander la révision, selon lui. Mais je préfère croire à la version qui argumentait contre le robot. Puis c'est ce système-là qui est à l'origine de plusieurs clips viraux. La saison a commencé il y a une semaine, puis j'ai l'impression que peut-être c'est mon algorithme aussi, mais je vois énormément de clips de révision, par exemple, en série par des receveurs qui ont raison ou de demande de révision d'un lancer en plein milieu du marbre, par exemple, d'un frappeur. T'sais. Fait que ça ajoute de l'excitation aussi au sport. Là. On voit que les foules réagissent fortement aux demandes de révision. Mais...
T'es pro-clanker, toi.
Je suis anti. En fait, moi, j'ai été arbitre de baseball pour 3 ans, je pense.
Tranche de vie.
Puis je suis très fan de l'élément humain de ce sport.
As-tu déjà joué au baseball?
J'ai joué plusieurs années aussi. Okay, ouais.
Jean-Philippe, t'en penses quoi, toi?
Là, ça rajoute une nouvelle couche de dystopie à un sport qui est ancré vraiment à bien des égards au 19e siècle. On n'y échappe pas, comme le fait. Hey. Même mon sport préféré.
Même le baseball est dystopique, ça va bien.
Oui, oui, vraiment. C'est ça que j'aime venir ici, c'est toujours positif.
Merci beaucoup pour toutes ces analyses, ces points d'humour, Jean-Philippe. Pour la couleur que t'amènes au balado.
Ben merci, ça fait plaisir. Hey, n'importe quand.
N'importe quand? Ouais. Ben, mets donc le 22 avril à ton agenda. Je te le dis
apparemment, vous faites quelque chose de live cette journée-là.
Exactement. Pas en direct.
Pas en direct?
On préenregistre.
Oh, ben là!
On préenregistre donc notre 100e épisode du balado. Fanny Tan nous a dit qu'elle ferait probablement un petit tour par là. En tout cas, t'es le bienvenu.
Ben, j'y serai.
Parfait. Puis ça se peut qu'il y a des micros qui circulent.
Oh. Ouais. C'est pour ça que c'est préenregistré.
Exactement.
Tout comme ce balado est préenregistré.
Ouais.
Suivez donc Jean-Philippe et donc ses interventions à l'émission le 15-18 si vous êtes dans la région du Grand Montréal. C'est disponible en ligne également pour ceux qui se trouvent ailleurs en dehors de ce Grand Montréal. Est-ce que ton infolettre, ça marche toujours?
Elle est en stand-by, mais c'est en refonte, là. D'ailleurs, vous pouvez visiter mon site web www.insécurité.québec qu'on va mettre ici. Juste ici, avec un lens flare.
Wow.
T'en refonte. Je travaille là-dessus. Mais le site web existe pour de vrai.
Parfait. Donc,
au moment où ça va être mis en ondes, ça va exister pour de vrai.
Ben, je te le souhaite.
Si jamais vous n'avez pas mes commentaires, vous pouvez envoyer un courriel à insulte@jpdm.org. C'est un vrai adresse courriel, ça va fonctionner.
Au pluriel ou au singulier, insulte?
Les deux.
OK, parfait.
C'est
nice.
Les deux alliances de réflexion que j'ai mis.
Pensez à tout. Au. Peut-être qu'on va avoir une... Hein? Nous aussi, ça, ce genre d'adresse courriel.
La courriel, c'est déjà ça.
C'est déjà ça. Mais ça nous permettrait de faire le tri. Mais quoi qu'il en soit, ça a été toujours un plaisir de jaser avec vous et que vous fassiez partie aussi de cette discussion, puisque c'est le but de l'exercice. Questions, commentaires, suggestions, insultes aussi. Tout c'est le bienvenu, parce que même les insultes, on les reçoit avec amour. Merci beaucoup à tout le monde qui est en régie aujourd'hui, à Thomas Bignon, fidèle au poste. Merci pour ta patience. Bonne chance pour le montage. On t'aime, Thomas, on était avec toi. Je te fournirai du café ou du liquide jaune si tu veux procéder à ce montage.
Oh mon Dieu,
en toute sérénité. Inusitol.
Inusité.
On se voit dans 2 semaines. Allez, salut!